France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
D'après une histoire vraie, peut-on lire sur certains génériques de films. Le talent, après, consistera à s'emparer de ce réel pour le transformer en fiction. C'est tout l'enjeu et le charme de cette œuvre sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Début des années 2000, un commissaire priseur alerté de la découverte d'un tableau du peintre autrichien Egon Schiele retrouvé dans le pavillon d'un jeune ouvrier dans la région de Mulhouse. Une œuvre, on va le découvrir, spoliée par les nazis. Bonjour Pascal Bonitzer.
Bonjour.
C'est le point d'ancrage de votre film, le tableau volé, et l'occasion d'une étude de caractère autour de cette toile et des conséquences de sa valeur. À l'affiche de ce film, Alex Lutz, l'ambitieux commissaire-priseur, son assistante Louise Chevillotte, et le père de celle-ci. Bonjour Alain Chamfort.
Bonjour.
Auteur, compositeur et vraiment interprète de ce père aimant mais manquant et cet homme brisé. Sur cette histoire de spoliation, nous appellerons une avocate spécialiste des questions de restitution artistique, Corinne Hershkovitch. Le tableau volé est sorti mercredi. Également à l'affiche cette semaine, Borderline, la fleur de Buriti ou Jusqu'au bout du monde. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Vous savez, Laurent, si vous voulez vraiment faire ce métier, vous devez être prête à tout pour une vente. Sinon, l'objet, il part à la concurrence, et ça, c'est pas une option.
Je suis prête à tout.
Ah oui. Même à tapiner. Regardez ce que j'ai fait avec cette dame ce matin. Vous savez, ce qu'il y a de magnifique dans ce métier, c'est quand vous tombez sur un truc vraiment rare. Alors là, oui, vous êtes Indiana Jones. Mais le reste du temps, 99%, on drague, on fait la pute.
Bah, je veux bien faire la pute. Si c'est pour vous, je veux bien.
J'ai pas entendu.
Je disais que... Je veux tout ce que vous voulez.
Tout ce que veut une vente qui vaut le coup, Aurore. On est au 21e siècle, je vous parlais de travail, de métier, c'était une métaphore.
Un truc vraiment rare, ce commissaire-priseur arrogant, André Masson, oui, comme le peintre, incarné par Alex Lutz, va tomber dessus. Un tableau d'Egon Schiele, les tournesols, disparu depuis 1939, retrouvé dans le pavillon d'un jeune ouvrier près de Mulhouse, une œuvre spoliée par les nazis, le tableau volé, Pascal Bonitzer, votre film, s'inspire d'une histoire folle, mais vraie. Mais ce tableau, un paysage, un champ de tournesols, quelle est, à vos yeux, sa valeur? Vous l'aimez?
J'aime assez Egon Schiele, c'est pas mon peintre préféré, mais au fond je le connaissais pas comme peintre de paysage.
Oui.
D'ailleurs en général il est plutôt connu
pour les nus,
pour les nus, mmh. Pour les portraits, c'est un côté très torturé et légèrement obscène et provocant qui font sa réputation. Donc les tournesols c'est pas je connaissais pas.
Mais... C'est les tournesols quand même un peu.
Ah bah c'est les tournesols. Ah. C'est pas Van Gogh. Chilien,
oui,
quoi,
voilà.
Si j'ose dire.
Oui. Vous avez des tableaux de maître chez vous, Alain Chamfort?
Oui, plein.
Les
imaginez, je ne sais plus où les mettre.
Vous connaissiez cette toile ou vous l'avez découverte à l'occasion?
Non, je ne la connaissais pas. Non, pour être honnête, je ne la connaissais
elle
pas.
Elle vous émeut? Elle vous fait quelque chose?
Bon, on ne la voit pas tant que ça, d'ailleurs.
Non,
non on la voit au début, elle est presque invisible, d'ailleurs. Ouais. Et puis, à la fin, elle est mise un peu en valeur.
Ouais.
On voit presque plus son empreinte sur le mur une fois que le tableau est parti.
Ouais, oui, c'est intéressant.
Sur le mur, ce qu'on appelle un fantôme.
Voilà, ouais. Exactement.
L'idée qu'elle a traversé près de 70 ans d'histoire, ça ajoute beaucoup de dramaturgie à cette histoire, justement, non? C'est ça l'idée.
Oui, bah c'était l'une des choses qui m'intéressait dans cette histoire, c'était bon l'origine à la fois mystérieuse et pas si mystérieuse de la présence de ce tableau. Là où on la trouve, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, et puis qui permettait de parler un peu de la question de la spoliation des biens juifs par les nazis et donc un petit peu de la Shoah. Et puis l'autre chose qui m'intéressait, c'était justement le fossé entre les deux mondes,
entre les deux mondes.
Qui donc se trouve. qui se trouve du coup se réunit par cette histoire.
Ouais, par ce tableau. Avant de revenir avec vous donc sur ces enjeux, les intrigues autour de cette œuvre, dans votre film, un avis d'experte, maître Corinne Hershkovitch, spécialiste des questions de restitution artistique. Bonjour maître. Allô.
Bonjour.
Vous êtes en Italie, vous êtes à Rome, à un congrès de jury, ça tombe bien, sur les œuvres aux provenances problématiques. Une affaire comme celle des tournesols de Schill, vous en avez beaucoup rencontré en 30 ans de carrière.
Oui, j'en ai rencontré qui sont peut-être pas aussi romanesques que celles qui est décrite dans le film, oui. Mais j'aurais tendance à dire que chaque œuvre qui a fait l'objet d'une spoliation ou d'une localisation différente a toujours une histoire extrêmement intéressante et souvent entourée de beaucoup d'histoires humaines aussi, qui teintent l'histoire de l'œuvre elle-même.
La traçabilité d'une œuvre, c'est comme une enquête géographique et historique pour vous?
Oui, c'est vraiment le terme. Il faut se livrer à une enquête qui nous mène parfois très loin et qui nous permet, avec les éléments qu'on recherche un peu partout, dans les archives bien évidemment, mais aussi dans les témoignages ou dans différents voyages, documentations, c'est vraiment le parcours de l'œuvre en essayant de remonter au plus près de du jour de sa création.
Jusqu'où êtes-vous allé pour retrouver les traces d'une peinture, par exemple? Très loin?
Parfois jusqu'à... Oui, enfin, très loin. Il faut voyager en essayant d'approcher au plus près, encore une fois, le lieu de la création, mais en passant aussi par les différents endroits géographiques où l'œuvre a circulé. C'est un peu la caractéristique de l'œuvre d'art. C'est un bien mobilier, donc qui peut circuler facilement. Et le marché de l'art est très international. Donc, c'est là qu'on doit suivre pas à pas la trace d'une œuvre, c'est qu'elle a circulé sur le marché international, donc elle est passée par plusieurs pays. Et pour retrouver sa trace, parfois, il faut aller chercher dans les archives ou des témoignages dans les différents pays dans lesquels elle est passée.
Est-ce que cette notion de traçabilité est plus prégnante de nos jours qu'avant? Est-ce qu'on s'en soucie plus maintenant qu'avant?
Oui, ça a évolué d'une manière presque révolutionnaire. Moi, ma première affaire de tableau spolié remonte à 1995. Le cas Gentili di Giuseppe, qui a été assez médiatisé à l'époque. Et à l'époque, la recherche de provenance, la traçabilité des œuvres, c'était quelque chose, une notion qui n'existait quasiment pas. Les historiens de l'art s'intéressaient à une traçabilité ou à une provenance prestigieuse. Mais sinon, le parcours de l'œuvre elle-même ne faisait pas du tout partie de l'histoire de l'œuvre. Donc c'est à partir de ce cas d'œuvre spoliée, oui, que moi j'ai pu me rendre compte de l'importance de la traçabilité d'une œuvre.
Le film met en scène Drouot, et Drouot a été en super activité en 1940 et en 1941.
Oui, absolument. On s'est rendu compte, justement, en étudiant les œuvres qui ont été spoliées, on s'est rendu compte que le marché de l'art à Paris était extrêmement dynamique entre 40 et 45. Oui. Parce que pour des raisons diverses et variées, d'abord parce que le taux de change était très favorable aux Allemands qui occupaient Paris à l'époque, que les Allemands étaient très amateurs d'art et que donc ils avaient les poches pleines pour aller acheter sur le marché de l'art parisien. Oui. La France est un pays qui regorge de tableaux, d'œuvres d'art, et donc le Drouot, qui existait déjà depuis très longtemps et qui était un endroit où on pouvait aller chercher des œuvres d'art, a été donc particulièrement actif à ce moment-là.
Il reste, c'est un chantier infini, il reste tellement de tableaux à retrouver, Corinne Hershkovitch.
Il reste beaucoup d'œuvres d'art à retrouver, ouais, parce que il y a eu à cette époque entre 33, l'avènement de Hitler au pouvoir, et 45, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a assisté à un pillage totalement inédit des œuvres d'art à travers l'Europe occupée. Ça faisait partie de la politique nazie, et donc il y a eu des déplacements d'œuvres d'art de manière absolument inédite, très organisée évidemment par les nazis. Et toutes ces œuvres ont continué à circuler après la guerre. Donc oui, c'est un chantier quasi infini.
Enfin, dernière question, le facteur humain est très important et pourrait donner lieu à une multitude de fictions, pareil, pour le cinéma, pour la télé, non ?
Et pour la radio, on pourrait évidemment...
Il y en a eu, hein, déjà.
Il y en a eu.
On pourrait raconter effectivement beaucoup, beaucoup d'histoires très intéressantes.
Vous avez dû être confronté à des comportements humains un peu fous, non, à travers ces enquêtes?
Oui, les œuvres d'art et l'art en général, on le voit dans le film d'ailleurs, ça suscite des réactions qui sont très irrationnelles.
Oui, très irrationnelles, c'est ça. Merci beaucoup Corinne Herskovitch, merci et bon congrès à Rome. Revenons à votre film Pascal Bénizère, lorsque Alex Lutz, André Masson, découvre avec son ex-femme merveilleuse Léa Drucker, spécialiste elle aussi, donc ce tableau dans ce pavillon et cette drôle de réaction.
Je suis désolé, non, on se moque pas de vous, madame.
Enfin, même si c'est une très mauvaise contrefaçon, on se conduit pas comme ça.
C'est nerveux.
Le tableau est vrai. Il est vrai. Et c'est hallucinant. C'est une chose comme on n'en voit qu'une seule fois dans sa vie.
C'est un tableau très connu, c'est un chef-d'œuvre. On le croyait détruit, il a disparu en 1939.
Vous l'estimez à combien ? Tu dirais quoi ? 10 ?
12 au démarrage.
10, 12.
Millions.
Maman !
Le son est très important, la mère du jeune ouvrier, c'est une somme surréaliste, s'évanouit devant cette somme. Oui. C'est la première fois que, Pascal Bénizère, que vous confrontez deux milieux et que surtout vous vous intéressez à un milieu plus modeste que ces gens fréqués parisiens.
C'était
un défi.
Un des défis pour moi. Il fallait
que... Pourquoi c'est un défi?
Bah, c'était un défi parce que j'étais pas habitué, tout simplement. Mes précédents films se passaient dans des milieux assez homogènes, plutôt bourgeois, et là...
C'est compliqué à filmer, les milieux modestes?
C'est pas plus compliqué que chose, mais enfin, il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit crédible, un petit minimum.
C'est au cœur de l'histoire, la confrontation de deux milieux.
Voilà, c'est très important et je pense que j'ai été aussi beaucoup aidé par mes interprètes, donc Laurence Côte qui joue la mère qui s'évanouit là, et son fils qui est joué par Arkady Radev, que je connaissais pas quand je l'ai... J'ai fait des essais avec lui et qui est merveilleux.
Et la notaire, Nora Hamzaoui, qui fait le pont entre les deux classes.
Voilà, hein, voilà. Bon, Nora, je voulais travailler avec elle depuis un moment et j'ai pensé à elle tout de suite pour le rôle de l'avocate, mais les jeunes. Et donc il y a aussi Mathieu Lucci et Elias Kadri qui jouent les amis du jeune homme, qui sont vraiment, qui sont top.
Ouais. Et ce garçon, Martin, ce serait à peu près le seul personnage un peu authentique, comme le tableau?
je sais, oui, authentique, c'est absolument, qui a une certaine pureté.
Oui.
Parce que, en fait, dans l'histoire...
Dans la vraie histoire.
Dans la vraie histoire telle qu'elle m'a été racontée, je crois que les réactions que j'attribue à ce garçon, que je n'ai pas rencontré, hein, moi, sont à peu près celles qu'il a eues, oui.
C'est-à-dire, il faut le dire, il a dit « je ne veux surtout pas garder ».
C'est-à-dire, avant même de savoir que c'était une œuvre spoliée et que de toute façon, il ne pouvait pas la garder, qu'elle devait être restituée aux héritiers, quand il a su que c'était l'œuvre d'un collectionneur dont toute la famille avait été gazée à Auschwitz, parce qu'il n'avait pas pu faire sortir sa collection pour la vendre et payer la rançon qui aurait permis à sa famille de sortir d'Autriche, il a dit « je ne veux pas avoir de sang sur les mains, donc je ne veux pas de ce tableau ».
C'est là où l'histoire est très morale aussi, la vraie histoire, parce que c'est le collabo n'aura pas profité, il n'aura pas su qu'il avait chez lui 12 millions. Ça, c'est très très moral. Ouais.
Bah, c'est-à-dire le collabo donc
le propriétaire,
qui était le propriétaire initial du tableau était prisonnier. Enfin, il y a une autre histoire qui est effectivement qui est hors champ si on veut, mais qui est passionnante, c'est que il avait un chef-d'œuvre chez lui, mais il ne pouvait pas le sortir, il ne pouvait pas en faire état, parce qu'il aurait été obligé. De dire
d'où
il venait et comment il l'avait et se dénoncer comme collabo. Et ça c'est une espèce de justice immanente.
C'est ça. Si
mais cette enquête, vous vouliez pas en faire l'essentiel de votre film, pourtant elle est passionnante.
Oui, mais il y a plusieurs histoires passionnantes dans le film, et moi ce qui m'intéressait c'était l'histoire globale du devenir de ce tableau une fois qu'il avait été découvert.
Oui.
Parce qu'il y a des rebondissements, il y a aussi des péripéties dans la suite qui mènent jusqu'à la vente et ça, dont certaines je les ai un petit peu inventées, mais d'autres sont réelles.
Mais au cœur du propos, Pascal Bénitière, c'est quand même l'argent. L'argent qui détruit tout. Enfin, je veux dire, l'argent dont les certains sont possédés. Enfin, vous voyez, c'est ça au cœur du sujet.
Oui, oui. D'ailleurs, si on regarde bien le film, on voit qu'il est constamment question d'argent et il n'est question que d'argent, y compris entre
le père et sa fille.
Entre Louise Cheviot et son père que joue Alain Chamfort.
Oui.
Il y a aussi beaucoup question d'argent. Mm. Et, l'argent est partout, bon, c'est comme ça.
Et le film en a coûté beaucoup d'argent?
Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de temps et d'argent pour le faire, mais voilà, la région Grand Est, par exemple, ne nous a pas donné d'argent, donc on a été obligé de tourner tout ce qui était censé se passer à Mulhouse, en région parisienne, sauf évidemment les quelques scènes en extérieur et au musée Schlumpf. On a eu une journée pour ça, mais voilà.
Alex Lutz est assez fascinant hein, dans ce rôle.
Il est toujours fascinant, Alex Lutz.
Il est toujours fascinant, Alex Lutz. Vous l'avez vu sur scène?
Non, je l'ai pas vu sur scène, mais j'avais vu son film Guy qui est extraordinaire,
ouais.
Qui était vraiment une performance dans tous les sens du mot, et j'ai vu ses films.
C'est un garçon qui a une revanche sociale à prendre.
Ouais.
On va écouter l'extrait justement dans lequel il raconte ses origines.
Votre vie privée, votre vie de famille ne me regarde pas tant que ça ne déborde pas ici.
Il est malade.
Enfin, s'il doit se faire changer la hanche, ça le rend pas fou. Il vous traite de menteuse, il sait de quoi il parle. Vous pouvez me dire ce que vous avez dans la tête, Aurore?
Non, je peux pas.
Xonrulongemet.
Pardon?
Xonrulongemet, c'est mon lieu de naissance. Vous savez pas où c'est? Une personne sait où c'est. Et quand on monte à Paris, qu'on vient de Xonrulongemet, qu'on est habillé comme à Xonrulongemet...
Pourquoi vous me dites ça?
Je vous dis ça parce que quand on prend mes mesures, je repense à tous ces petits cons du collège, les un peu plus importants de Xonrulongemet, qui m'humiliaient à longueur de journée. Alors c'est idiot, mais d'ici, maintenant, ça me motive. Tout ça pour vous dire que vous avez pas inventé la honte, Aurore.
La honte? J'ai pas honte. Je m'en tape que vous soyez de je sais pas où Longemet, j'en ai rien à foutre de vos histoires de costumes. Vous pensez qu'à ça? Avec vos voitures, vos cravates et vos montres, vous êtes pitoyables. Connard prétentieux qui jouit de son petit pouvoir sur moi. Mais c'est fini, ça s'arrête aujourd'hui. Je me casse.
Bon, c'est pas vous qui décidez?
Ah bah si.
Bon, vous restez ici,
Aurore. Vous me touchez pas, je porte plainte pour agression. Je ferai de votre vie un cauchemar.
Il est assez antipathique, ce personnage, mais il évolue quand même dans le film, Pascal Bénitzer. On comprend, effectivement, ses comportements, justement.
Oui, d'abord là il commence à se livrer un petit peu à ce moment-là, c'est déjà assez avancé dans l'histoire, et tout ça après que effectivement le père d'Aurore soit venu faire un petit scandale.
Mais il appartient à un milieu donc d'argent, effectivement, d'intérêt, de pouvoir. Ça vous fascine ça ou pas, ce milieu?
Non, pas vraiment. Enfin, je suis toujours impressionné par le, comme tout le monde, par le pouvoir et l'argent, mais pas plus que ça.
Parce que vous, là, dans tout de suite maintenant, c'était aussi dans la haute finance.
Tout de suite maintenant, c'était la finance, c'était le monde des fusions-acquisitions. Mm. Et c'est les mondes que je connais pas vraiment. Hein. C'est, je me renseigne, je fais des enquêtes. Enfin, là, j'avais fait une enquête assez précise, assez fouillée pour l'univers des fusions-acquisitions. Et là, j'ai fait aussi une enquête. Ou plus exactement, c'est ma collaboratrice. C'est Ilyana Rich qui a fait une vingtaine d'interviews à la demande de Saïd, notre producteur, de professionnels de cette profession.
C'est du bonheur pour les scénaristes, ces milieux-là.
Oui, c'est balzacien. Parce qu'il y a, mille histoires, mais en fait, c'est vraiment cette histoire-là qui m'a scotché. Mmh. Et donc, je me suis dit, là, il y a un truc. Y a une...
Et vous, vous êtes où entre l'argent et la modestie, entre ces deux milieux?
J'aimerais avoir un peu plus d'argent.
C'est important l'argent pour vous?
Bon, c'est important comme pour tout le monde, enfin jusqu'à un certain point, mais pas au-delà.
C'est important pour faire des films?
C'est très important pour faire des films, c'est pas important.
C'est capital.
C'est essentiel.
Vous en avez manqué, là, vous dites que le budget était petit. Vous auriez fait un autre film avec plus d'argent?
Je n'en sais rien. Oui, sans doute, parce que, par exemple... Mais finalement, je trouve que c'est très bien comme ça. Non, par exemple, dans l'histoire réelle, la vente du tableau n'a pas eu lieu à Paris, elle a eu lieu à Londres. Et dans la première version du scénario, très naïvement très optimistement, j'avais situé la fin de l'histoire à Londres.
Oui.
Bon, non, finalement, non, on a tourné à Paris.
Ça change pas énormément en même temps, si?
Non, c'est même plus confortable d'une certaine façon, parce que...
Parfois, on trouve même des idées quand il n'y a pas trop
d'argent. C'est pas facile.
Quand il n'y a, a pas trop d'argent, on trouve du coup...
La contrainte.
Pas mal d'idées.
Oui, c'est ça.
Ah,
c'est la pauvreté et la mère de l'invention, c'est ça.
Face à Alex Luce, André Masson, il y a Aurore, sa jeune assistante, Louise Chevillotte, une jeune femme qui ment beaucoup, et d'abord à son père, incarné par Alain Chamfort.
C'est intéressant ton travail?
Je sais pas si je suis faite pour.
Pourquoi?
C'est un métier où il faut jouer un rôle. Il faut faire semblant.
Mais tout le monde fait semblant. Ta mère a fait semblant de m'aimer, moi j'ai semblant d'avoir encore de l'argent. Toi d'avoir perdu tes clés et d'être contente de me voir.
Elles étaient vraiment dans la doublure. Tu veux voir le trou?
Tu as parlé récemment?
Maman? On est fâchés. Elle a encore dit des trucs sur toi, ça m'a gonflé et... C'est parti en sucette. On se parle plus. D'ailleurs, je parle à personne. Sauf à Julie, quelquefois, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui.
Non, qu'est-ce qu'elle devient?
Rien. Elle était bonne à la fac et puis... Je sais pas, la vie.
T'as une belle vie, toi, je suis sûr. Au moins, tout ce qui donne l'illusion de la vie, l'argent, le succès, l'amour...
Pourquoi tu dis l'illusion?
Parce que la vie, ma chérie, c'est pas ça. C'est pas ça, la vie.
C'est quoi, la vie, papa?
Encaisser, lâcher du lest, tu revoir à la baisse. C'est ça, la vie.
Ça aide d'avoir des beaux dialogues, Alain Chamfort.
Oui, c'est sûr. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Il y a une justesse qui suffit juste de dire les mots, puis voilà, on y est dedans. Quoi.
Comment vous voulez te raconter ce personnage, ce père?
C'est quelqu'un qui est revenu un petit peu de... Il a subi une espèce d'escroquerie, lui-même, à l'époque, par un associé un peu véreux, comme dans ce monde-là. Le cynisme dépasse tout. Quoi. Donc,
il a été humilié.
Il a été humilié, voilà. Et donc, il fait avec ce qu'il peut, quoi. Enfin, il a gardé quand même...
Il a gardé sa dignité.
Une sorte de dignité, quand même, oui.
Il a une présence fantomatique, Alain Chamfort. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans de nombreuses scènes, mais il parcourt dans nos têtes le film. C'est ce que vous vouliez nous laisser penser.
Il arrive à des moments cruciaux, enfin, qui... Et effectivement, il a un côté revenant.
Statue du commandeur, un peu. Oui.
Vous avez créé le personnage en pensant à lui.
Oui. Depuis que j'avais vu Alain dans le film de Serge Bozon, Don Juan, j'ai eu vraiment envie de tourner avec lui. Et je crois que j'ai j'ai créé le personnage qui évidemment se rattache à l'histoire principale, pas d'une façon très très organique, si on veut.
Oui.
Vraiment, je crois que je l'ai créé pour voilà.
Boson, Serge Boson, il dit de vous, Alain Chamfort, physique, élégance, qui peut amener quelque chose d'un peu inquiétant et spectral, une délicatesse divagante. Vous êtes, c'est assez juste, non ?
Tout à fait d'accord.
Tout à fait d'accord. Comment, vous ne pensiez pas au cinéma avant Alain Chamfort ? Avant de faire quelque
chose. Bon, on y pense toujours.
Ah bon?
Tiens. Bah oui. Bah,
ah oui?
Oui, bien sûr. Bah, c'est quand même. Alors, en même temps, je me sens pas acteur, quoi. J'ai aucune formation. Donc, je me sens un peu usurpateur d'arriver dans ce monde. Par exemple, je me serais jamais permis d'aller faire des castings, des choses comme ça. Parce que. Mais à partir du moment où je suis dans le désir du réalisateur, ça, moi j'aime bien ça, quoi.
Vous n'êtes pas dit c'est dommage, j'étais super beau jeune et j'aurais pu être à l'affiche de film. Vous êtes encore très beau.
Ça peut être
mais
justement un faux départ, quoi. Je pense qu'effectivement, quand on reste sur un personnage un peu lisse comme ça, un peu, ou alors il a fallu que je tombe sur Hitchcock, ou je sais pas, enfin voilà, qui donne un peu une seconde couche, quoi, quelque chose d'un peu inquiétant. Mais si on est juste sur un physique un peu lisse, c'est pas beaucoup d'intérêt, je trouve.
Il y a un parallèle avec la scène quand vous êtes sur scène, vous jouez un personnage aussi ou pas?
Oh, un petit peu, j'imagine, oui, parce que les chansons sont quand même écrites. Il y a quand même, bon, on crée aussi un personnage à travers les chansons, bien sûr. Mais après, quand on les chante, je trouve qu'on essaie juste d'être juste avec ce qu'on est en train de dire. Et c'est un peu comme dans le film, quoi, essayer de retrouver quelque chose qui résonne en soi et qui exprime une forme de sincérité, quand même.
Oui, de ce point de vue-là, il y a des rapports entre...
Oui, ouais, je trouve aussi.
Vous n'exploitez pas votre présence, mais pourtant, elle joue beaucoup. Enfin, je veux dire, en plus du rôle, c'est votre corps et c'est vous que vous amenez. Et il y a de vous dans ce personnage, par exemple, ou pas?
Oh, il y a toujours de ça, je crois, oui. Bon, on va chercher en soi. C'est-à-dire que le rapport avec sa fille, bon, moi-même, j'ai une fille, donc je retrouvais quelque chose d'assez naturel, quoi, finalement. Le rapport qu'on peut avoir avec un enfant, enfin, on le restitue assez naturellement. Enfin,
on espère qu'elle ment un peu moins que celle du film.
Ah, j'espère.
Un peu moins.
Je sais pas le savoir.
C'est quoi être acteur, finalement? Quand je...
Ah, bah c'est peut-être essayer de retrouver en soi des émotions que le personnage doit évoquer, doit restituer. Donc essayer de ça. Enfin, moi je m'appuie là-dessus, quoi. J'essaie de retrouver quelque chose qui fait appel à des choses que j'ai ressenties, que j'ai vécues. Enfin,
En tout cas, j'ai été frappé par le naturel avec lequel tu es rentré dans le rôle. Et c'était, je veux dire, les prises ont été très faciles à tourner. Enfin, c'était très, très, cet élément très, très agréable du tournage.
Comment vous vous y prenez avec les acteurs, d'ailleurs? Est-ce que pour vous, ils existent? Le casting dit beaucoup de choses déjà et il n'y a pas trop de choses à dire en plus sur un plateau.
Oui, bon, je cite toujours, je crois que c'est cette phrase qui est de Romer, je crois que la direction de l'acteur à 90%, c'est le choix des acteurs.
Ouais.
Et moi, je suis pas très directif, je pense qu'il est absolument inutile d'expliquer aux comédiens le personnage qu'ils sont en train de jouer, surtout quand j'ai affaire à des comédiens comme ceux que j'ai eus, qui sont vraiment des très grands professionnels. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est à nuancer éventuellement, ou alors quelquefois quand il peut arriver qu'il y ait une interprétation erronée par rapport à ce que je pense moi du sentiment, et alors à ce moment-là je donne une contre-indication, mais c'est contradiction, c'est pas exactement le mot que je voulais. Une indication différente.
Oui, c'est ça. Alain Chamfort, quand vous êtes face à un acteur, vous dites il est différent, je suis pas pareil que lui, vous êtes intimidé.
Écoutez, ben je pense que c'est lui aussi. Enfin, c'est l'échange, quoi, qui est intéressant. C'est-à-dire que quand vous avez devant vous quelqu'un qui produit de la justesse, ça vous oblige à restituer la même chose, quoi. Il y a vraiment une notion d'échange qu'on n'a pas sur une scène, par exemple.
Oui, oui.
Enfin, peut-être au théâtre, bien sûr.
C'est les anglo-saxons disent « acting is reacting ». Acting is reacting.
Ah, jouer, c'est réagir. On va vous écouter justement face à un acteur qui est à Raïm dans Don Juan.
Ah, d'accord. Et vous avez eu beaucoup de femmes dans votre vie ?
Oui. Juste qu'avant elles, je ne savais pas choisir.
C'est curieux, hein ? Un amour.
Mais vous moquez de moi ?
Sans amour, on n'est rien, rien de rien. Vous êtes comédien ? Non.
Comment vous le savez ?
J'ai pu vous voir faire le show l'autre soir avec le foulard comme un comédien. Comme si pour vous, la vie n'était qu'une comédie. Égocentrique, joueur, impudique, les caractéristiques d'un comédien.
Très observateur.
Là, c'est 100% Jean Fort, hein. Il y a le jeu et
le
jouer.
Le chanteur, tout est là, oui.
Il fallait le faire en direct, en plus,
oui,
sur le plateau.
Oui, oui. Ah oui, c'était un peu impressionnant, quoi, parce que... Oui, c'était tout en live, comme ça, avec le jouet, plus la musique n'était pas évidente, hein, je veux dire.
Le thème du père dans le tableau volé, il est important, parce qu'il y a effectivement le père manquant de l'un et de l'autre aussi, d'ailleurs. Et on le retrouve, notamment, ce thème dans Chercher Hortense, Pascal Bonitzer, avec cette Bacri face à Claude Riche, qui joue un conseiller d'État. Est-ce qu'on va écouter cette scène de restaurant ?
Papa.
Oui.
Tu es gay ?
Pardon ?
Est-ce que tu es homosexuel ?
Trop de questions. Non, je ne suis pas homosexuel.
Ah, pardon. Je vais le dire autrement. Est-ce qu'il t'est arrivé de coucher avec des hommes ?
Oui. Ça fait de moi un homosexuel ?
Mais j'ai pas très bien compris. Tu couches avec des hommes, mais tu n'es pas homosexuel.
Il y a chez chacun de nous une part de l'autre sexe. Seuls les imbéciles refusent de le reconnaître.
Peut-être. Néanmoins...
Je n'ai aucun goût pour ces casiers identitaires ridicules où tout le monde se bouscule pour entrer. Pour ce communautarisme répugnant qui cherche à s'imposer partout. Créer la haine de tous pour tous et finira... partout détruire. Je couche avec qui je veux. Et personne ne me collera une étiquette.
Bon, d'accord. Très bien.
Et toi, ça va de ce côté-là ?
De quel côté ?
Du côté de l'amour. J'ai l'impression que ce n'est pas la grande forme.
Mais pas aussi grande que la tienne, papa.
Pascal Bonitzer, quand on est derrière son combo et qu'on regarde ces deux types jouer, on est... c'est une jouissance de cinéaste, ça, non ?
Oui, c'était déjà une jouissance à écrire. Hein.
C'est ça.
Je me suis amusé quand
mais
même.
Oui.
J'avais écrit le scénario avec Agnès de Sacy.
Mais ça doit être bouleversant parfois quand même, hein, d'écrire des choses qui sortent de sa tête et de les voir incarner comme ça.
C'est-à-dire quand on a affaire à... Quand ça s'incarne effectivement dans deux grands comédiens comme étaient Bacri et
Riche,
bon, qui ont disparu tous les deux d'ailleurs.
Oui.
C'est triste, mais bon. C'est formidable.
Il y a des dialogues d'aussi belle tenue dans ce film qui s'appelle Le Tableau volé avec Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzaoui, Luc Chevillotte, Arkady Radev, jeune acteur que vous avez qu'on découvre, et Laurence Scott entre autres, et bien sûr Alain Chamfort.
Je vous le conseille très vivement.
Et le film est sorti mercredi. Tabassé par la vie qui tabasse, aurais-je su fondre la glace ? C'est une des paroles de votre chanson La Grâce, Alain Chamfort. Je conseille aux auditeurs d'aller voir le clip qui est absolument merveilleux, où on a l'ensemble des créateurs français, des musiciens
très beau casting.
Très beau casting. La Grâce, et on se retrouve pour les sorties après.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace. Les mains sales, les ongles pleins de crasse. Aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse. Aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix chercher, parler devant, parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses. Par la vie qui tabasse, aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères, jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je disgrâce? Aurais-je effleuré cette grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humain
Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Les sorties, on va commencer par Jusqu'au bout du monde. C'est un titre d'ailleurs d'un film de Wenders, ça.
Oui, mais ça c'est fini.
Mais
le
oui,
temps
bah oui.
Où il ne fallait pas prendre bien. Le titre et les autres, c'est terminé.
Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen, l'acteur qui réalise avec Vicky Krieps et lui-même dans le film ouest américain dans les années 1860. Après avoir fait la rencontre de Holger Olsen, immigrée d'origine danoise, Vivienne Le Coudy, donc c'est Vicky Krieps, jeune femme résolument indépendante, accepte de le suivre jusqu'au bout du monde, donc dans le Nevada, pour vivre avec lui. Mais lorsque la guerre de sécession éclate, Olsen décide de s'engager et Vivienne se retrouve seule, mais elle doit affronter d'autres hommes. C'est un western féministe, pourquoi pas. Une interrogation aussi sur la culture de la violence aux États-Unis. Bref, c'est plein de beaux thèmes, de beaux acteurs, de beaux décors, mais sans vraiment revisiter le genre western.
Ah, moi, je serais moins sévère que vous, je trouve. Effectivement, il y a un classicisme qui est assumé par Mortensen, il y a un romantisme qui est tout autant assumé, et après tout, ça fait du bien, à l'instar, d'ailleurs, de la rencontre entre les deux protagonistes, hein, au début du film. Lui est dans l'ombre, elle est dans la lumière, et elle éclate de rire. C'est évidemment un cliché de rencontre, mais qui est absolument bien conduit, mené, et une fois de plus, assumé par Mortensen. scène. Il faut dire très clairement que Vicky Krieps irradie durant tout le film. Elle est le monde presque à elle toute seule, avec ce personnage féminin qui ne cède rien aux vertiges et aux vestiges, plus précisément du passé, qui sont les hommes de cette ville absolument misogyne et peu enclin à l'aimer et à l'apprécier. Elle est lumineuse du début jusqu'à la fin, et de ce point de vue-là, franchement, Jusqu'au bout du monde est un très beau film.
Elle est en couverture de Télérama cette semaine avec un très bel entretien d'ailleurs.
C'est vrai.
Borderline de deux cinéastes vénézuéliens, Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas. Projetant de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis, Diego, vénézuélien, et Elena, espagnole, ce couple donc quitte Barcelone pour New York. Mais alors, arrivés à l'aéroport, la police des frontières les interpelle pour les soumettre à un interrogatoire. D'abord anodine, les questions des agents se font de plus en plus intimidantes. C'est sobre, c'est puissant, c'est tendu, c'est implacable jusqu'au bout, comme un huis clos en quasi-temps réel sur le couple, le mensonge et la paranoïa.
Oui, alors c'est un film qui dure 77 minutes, c'est pas pour magnifier les films courts, mais le propos est celui-là, absolument resserré, nerveux, sec, tendu, avec des champs contre champs, histoire de renforcer l'étouffement des personnages. Alors évidemment, ça dénonce la politique migratoire, notamment de Trump aux États-Unis, mais ce qui fait tout l'intérêt...
Oui, au début de la construction du mur d'ailleurs.
Exactement, et ce qui fait tout l'intérêt du film aussi, c'est qu'il y a un secret qui remplit progressivement le film, et qui n'est pas du tout un secret politique, qui est un secret intime entre ce couple. Alors, on n'en dira rien du tout ici, mais c'est là où vraiment le scénario est assez diabolique et nous permet de mélanger l'intime et le politique.
Un thriller dans une seule pièce mal éclairée, chapeau.
La
fleur de Buriti du réalisateur portugais João Salavisa, à travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir trois époques de l'histoire de son peuple indigène au cœur de la forêt brésilienne. Un voyage qui touche au sacré. Laurent, attention, écrit Jacques Mandelbaum dans Le Monde, zone de pleine beauté.
Si, il a bien raison, notre confrère du Monde, il a bien raison. C'est un film qui était à Cannes l'an dernier, donc qui a mis un an avant de parvenir dans les salles, mais c'est souvent le jeu. Il y a une célébration absolument magnifique de la nature à travers cette tribu. Alors c'est une fiction, oui, peut-être, mais avec au plus près du réel, joué par des acteurs absolument concernés parce que ce sont des amateurs, évidemment. Ces personnages qui sont entre cette immense forêt incroyable et puis la ville de Brasilia racontent tout simplement la tension entre cette ville et cette modernité et cette nature qu'on aimerait jusqu'au bout préserver. C'est pas sûr qu'on y arrive.
La fleur de Buriti. État limite de Nicolas Peduzzi, hôpital Beaujon, Clichy, au mépris des impératifs de rendement et du manque de moyens qui rongent l'hôpital public, Jamal Abdelkader, seul psychiatre de l'établissement, s'efforce de rendre à ses patients l'humanité qu'on leur refuse. Mais comment bien soigner dans une institution malade? Diffusé d'abord sur Arte, le voici enfin sur grand écran, sans commentaire, oui. Un psychiatre, lui aussi, en état limite.
Oui, alors on a eu le Madame Hoffman de Sébastien Lifshitz, oui, qui décrivait la grande misère du service hospitalier français, et puis les trois documentaires récents de Nicolas Philibert, qui, autour de la folie, c'est une sorte de troisième volet, de troisième contribution à cet état général qui, hélas, n'incite guère à l'optimisme, mais je crois que vous l'avez vu, Pascal Bonitzer.
Oui, je l'ai vu hier.
Et alors?
J'ai été très impressionné, d'abord par évidemment le film, la description de Beaujon, que je connais pour des raisons personnelles.
Hôpital?
L'hôpital en question, qui est assez effrayant.
Oui, tentaculaire.
À certains égards. Ouais. Et par le personnel, enfin par cet homme qui est
Jamal
assez extraordinaire.
Jamal
Abdelkader, qui, je me suis laissé dire que depuis, il avait quitté l'hôpital.
Ah, ouais.
On parle d'état limite, on sent qu'il est lui-même à la limite de ses forces et qu'il donne. Il donne énormément. Le film est un témoignage assez bouleversant.
Oui.
On rappelle que l'état limite, c'est le stade intermédiaire entre la névrose et la psychose. Ça veut tout dire.
Oui, borderline.
Voilà. Ouais. Le silence de Sibel, premier film de l'Irakien Ali Yeganeh, août 2014 à Sinjar, au nord-ouest de l'Irak. chef-lieu des Yazidis, à 13 ans, Sibel est enlevée par des hommes de Daesh devant sa famille, qui est massacrée. Elle sera réduite à l'esclavage sexuel, torturée et violée. Une petite ville du centre de la France, une ophtalmo d'une quarantaine d'années, d'origine kurde, Anna, qui ne peut tolérer les atrocités, va recueillir cette jeune fille. Une fiction inspirée de faits réels, mais assez pesante et chargée quand même.
Ben oui, alors on a un peu de mal, parce que le propos est assurément recevable et absolument respectable, hein, l'horreur de l'État islamique qui pourrait passer à côté, mais effectivement tout est pesant, didactique, appuyé à l'excès, il y a un excès de pathos qui finit par tuer le propos général, tout comme d'ailleurs le jeu assez approximatif du casting, à l'exception de l'actrice principale, il faut le dire. Bref, trop de discours finit par empêcher notre adhésion.
Et on rappelle aussi la sortie d'une affaire de principe, même si on avait reçu Antoine Rimbaud, Marc Sirigas et Thomas VDB, Bruxelles 2012, quand le commissaire à la santé est limogé du jour au lendemain, dans la plus grande opacité, le député européen José Bové et ses assistants parlementaires décident de mener l'enquête. C'est un techno-thriller super efficace
oui.
Et très passionnant à regarder avant les élections européennes du 9 juin. Une très grande reprise, vous serez d'accord avec nous, Pascal Bonitzer, c'est Collatéral de Michael Mann. On peut dire que c'est l'un de ses meilleurs films.
Oui, enfin pour ce que j'ai vu, pour moi c'est son meilleur.
Oui, c'est un thriller nocturne.
Tom Cruise, Jamie Foxx.
Ouais, mise en scène virtuose pour filmer l'angoisse, la violence, la poursuite et notamment cette scène incroyable dans la boîte de nuit qui restera dans les annales, plus un Tom Cruise en assassin glacial assez époustouflant. C'est un grand acteur, Tom Cruise.
Mais oui. Je vais pas dire le contraire.
Ben non.
On va terminer avec
deux cadeaux.
Pour
pas de DVD cette semaine.
Non.
Deux livres pour nous. Un livre.
Alors est-ce qu'on passe l'extrait pour le premier?
Mais oui, on va.
C'est un livre pour Alain Chamfort. Voilà. On vous passe un extrait de ce chanteur qui était aussi acteur.
Dis donc, j'ai l'impression que Pline, il est vachement amoureux de toi.
T'es fou? Bon, t'as plus que ça.
Je t'assure. D'ailleurs, il me l'a dit. Après tout, Pline, c'est un homme comme les autres.
Et moi, je t'aime parce que tu n'es pas comme les autres. Tu joues pas les tombeurs. Tu joues pas les durs. T'es timide. Tu respectes les femmes.
Anna Chamfort, une idée?
Vraiment pas trop, non.
C'était un grand chanteur qui a joué un pianiste pour un réalisateur de la Nouvelle Vague.
Aznavour.
Oui.
Tiré sur le pianiste, Charles de son prénom, absolument. Et on découvre, grâce à ce livre de Philippe Rège, on découvre, en tous les cas, on en est maintenant assuré, qu'il a tourné 60 films.
Ah oui,
Charles Aznavour. C'est une très très belle carrière d'acteur, et pas pour n'importe qui, hein. Chabrol, Truffaut, Franju, Duvivier,
Schlondorff,
Mocky bien évidemment, ouais. Granit de Fer et Goyane à la fin de la carrière. Donc franchement c'est un vrai corpus comme on dit cinématographique. Ouais. Et ce livre qui paraît chez Hugo Doc, livre de je le répète de Philippe Rège, s'intitule Aznavour, un destin de cinéma. On est heureux de vous l'offrir de ce confrère en acteur et en chanteur. Voilà, on est en vous espérant beaucoup de films.
Il a refusé le rôle de Belmondo. À bout de souffle. Il a refusé à bout de souffle Aznavour à l'époque.
On fait tous des erreurs.
Et en revanche, c'est lui la voix française du vieil homme dans le film d'animation. Là-haut.
Absolument.
Un cadeau pour...
Pour vous, Pascal Bonitzer, ce très très beau livre de photographie qui s'appelle Les années des clics, et c'est Les années de Pardon, Raymond de Pardon,
oui.
Extraordinaire, qui de 1960 à 1997 a photographié beaucoup de stars, beaucoup de femmes et d'hommes célèbres. On y croise Delon et Scorsese, Bardot et Wenders. Ce sont des merveilles en noir et blanc. C'est édité par Le Seuil, donc au titre Les années des clics, et ça montre l'œil du photographe avec Mastroianni, une cigarette à la main. Enfin, c'est une plongée incroyable dans cette
univers. Il m'a même photographié.
C'est vrai.
c'était pas surtout moi, mais c'était j'écrivais à Los Angeles le scénario de Tricheur de Barbet Schroeder.
Ouais. Ah, c'est vous qui avez écrit le scénario.
Oui.
Génial,
et,
ce film.
et on a fêté mon anniversaire donc à Los Angeles avec Barbet et Bulle. Il y avait Toubiana aussi qui passait. Et Depardon nous a photographiés.
Ben voilà.
Merci Pascal Bonitzer et merci Alain Chamfort pour ce film, Le tableau volé, qui est sorti mercredi. Merci à notre belle équipe, Xavier Pestudia à la réalisation, Christophe Magère à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale avec ce beau titre, La Grâce. Au revoir.
Salut.